French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Et ce sentiment de, tout de suite, de se dire, tous les week-ends, on avait l'impression d'être en vacances, enfin de rentrer de vacances. Et cette sensation de liberté, de grandeur, de possibilité. Et tout de suite, on s'est dit, ah ouais, c'est différent, on se sent moins à l'étroit. Il y a un champ de possibilités beaucoup plus grand.
Ouais, vous avez été confirmé dans votre choix.
Oui, tout à fait. Quelque part, je pense aussi, on a un peu Hollywood nous a un peu vendu aussi, hein, Californie. Je pense à beaucoup de gens.
Ouais.
C'est l'état de vacances. C'est les villes qui sont LA, San Diego, San Francisco. Ils font tous un peu rêver. C'est tous iconiques quand même. Mais notamment, moi, je surf. Du coup, c'est l'état du surf. Du surf tous les jours, c'est le rêve ultime.
Salut, salut, c'est Anne-Fleur de French Expat. Depuis quelques jours, French Expat est devenu un podcast de French Morning et je vous invite à écouter l'épisode bonus du 1er juin pour en savoir plus. Ensemble, avec French Morning, on est très très heureux de continuer à raconter des récits forts et vrais d'expatriation et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'un couple de passionnés de voyage et d'expatriation. Marie est française, Ben est belge, néerlandophone. Ils se sont rencontrés dans leur colocation en Afrique du Sud il y a près de 10 ans et ne se sont plus jamais quittés. Ensemble, ils ont vécu en Afrique du Sud donc, en France, en Belgique, puis ils ont décidé de traverser l'Atlantique pour vivre à Boston pendant 3 ans, pour enfin atteindre la destination ultime qui les faisait rêver depuis longtemps, la Californie. Oui, mais ce dernier déménagement leur a apporté son lot de surprises, plutôt bonnes d'ailleurs. La découverte d'un amour fou pour le road trip à l'américaine. Si vous êtes familier avec le terme « van life » ou littéralement « vie dans un van », alors tendez bien l'oreille au récit d'aventure de ces deux amoureux de la nature qui ont d'ailleurs récemment repris Cypress Overland, une entreprise qui aménage jeeps et autres trucks avec tentes et matériel en tout genre pour vous permettre d'explorer l'Ouest américain au plus près de la nature. Ça devrait vous plaire. Reprendre une entreprise touristique en pleine pandémie mondiale, j'ai trouvé que le défi était quand même sacrément osé et ça m'a vraiment donné envie de creuser tout ça avec eux. Et vous allez voir, leur passion est contagieuse. Allez, next stop, San Francisco, California. Belle écoute.
Présente Marie Bailly, femme incroyable, puis je suis heureux de dire c'est ma femme.
Ben est d'origine belge flamande.
Elle est parisienne, très français, très parisien, amoureux de Paris, même si on n'y est plus.
Moi j'ai rencontré Ben donc il y a 13 ans à Cape Town, en Afrique du Sud.
On s'est rencontrés en Afrique du Sud, effectivement, parce qu'elle était là pour faire du bénévolat, après d'avoir voyagé 6 mois à travers l'Amérique latine toute seule.
Ben, c'est quelqu'un de très aventureux.
Elle est incroyablement sociale, modieuse, stylée, au courant des tendances.
«
Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente à Ben et Marie. Vous me parlez donc depuis la Californie aux États-Unis. Vous avez également vécu à Boston, à côté de là où je suis aujourd'hui pour vous parler. Mais en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'en fait vous aviez vécu aussi sur d'autres continents. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me raconter un peu de quoi on parle ici ?
En fait, on a commencé tous les deux ensemble. Moi, originalement, je suis de Belgique. Mais on s'est retrouvés, rencontrés et on est ensemble depuis Afrique du Sud, en fait. C'est là où j'ai vécu un an, Marie 6 mois. Et effectivement, on s'est rencontrés là. S'il y a des longues histoires là-dessus déjà en soi, mais on a bougé beaucoup. Après Afrique du Sud, on est rentré, on a refait des études ensemble en France, dans le sud de la France. J'ai travaillé dans le nord de la France, Marie à Paris. Après, on est passé par Belgique, Bruxelles, pendant 3 ans. Et après, c'est la vraie expatriation, on va dire, le vrai grand départ en États-Unis, à Boston. Au départ, pendant quoi, 6 ans?
6 ans et demi.
Et vous venez d'arriver à San Francisco. Vous vous êtes donc rencontrés en Afrique du Sud en 2008, si j'ai tout suivi.
Oui.
Alors, je ne savais pas. Donc, toi, Marie, tu revenais de 6 mois de voyage en Amérique du Sud, à ce que j'ai compris. Et toi,
oui.
Ben, tu y étais pour 1 an. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu le contexte de cette rencontre ?
J'avais envie de faire une pause après mon premier master. Et donc, j'ai décidé de partir voyager pendant 1 an. Et donc, je suis partie en Amérique latine pendant 6 mois en sac à dos. Et ensuite, mon projet, c'était de faire de l'humanitaire dans un pays anglophone. Et j'ai choisi l'Afrique du Sud parce que, pourquoi pas. Enfin, j'avais envie de changer, d'avoir une expérience très différente et d'aller à l'encontre de ce que je connaissais pas. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée à Cape Town.
Tu connaissais quelque chose à l'Afrique du Sud avant d'y arriver ?
Non, pas du tout. Je connaissais rien. J'avais juste trouvé une coloc et sur le papier, c'était une maison un peu auberge espagnole où il y avait 13 chambres et la maison était constituée la moitié d'étudiants sud-africains et la moitié d'étudiants de passage européens ou d'ailleurs.
Local.
Ou voilà, c'est ça. La propriétaire voulait vraiment faire de la mixité sociale et avait cette grande maison. Donc moi, je trouvais ça super. La tradition, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivant, la propriétaire désignait un des colocs pour accueillir la nouvelle personne. Et Ben était la personne qui m'a accueillie. Voilà.
Ah, une surprise. Excellent, d'accord, ok. Donc finalement, vous êtes rencontrés assez rapidement dans le voyage, quoi.
Tout de suite. Et donc moi, lui, il avait déjà passé 6 mois sur place. Moi, je suis arrivée donc au bout de ces 6 mois. Donc moi, on a passé 6 mois ensemble. Et puis, on est reparti ensemble, en fait. On a décidé de repartir ensemble et de rentrer en Europe en se disant notre projet de vie, c'est aussi l'international. On se destine en fait à vivre à l'étranger. On a décidé de postuler de refaire chacun un autre master. Et puis on a été acceptés tous les deux à une université dans le sud de la France. Donc on s'est dit que c'était, que c'était sympa.
C'était Aix-en-Provence, c'est pas mal.
Voilà.
C'était ça ou c'était Amsterdam ou quelque chose. Du coup, on a choisi Aix-en-Provence.
Alors, attends. Juste une demi-seconde, on n'a encore jamais parlé de l'Afrique du Sud dans French Expat, le podcast, et j'aimerais beaucoup qu'on y passe quand même une petite minute. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu ce pays, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y ressent ?
Afrique du Sud, et beaucoup, on a fait passer beaucoup de temps en Cape Town spécifique quand même, mais Afrique du Sud en général, voilà. Pour moi, c'était un pays fantastique. Franchement, il y a un esprit. Quand on y était, il y avait un esprit, une atmosphère positive qui était incroyable. Parce qu'il sortait quand même d'une époque, apartheid, ça faisait dans les 90, c'était pas si longtemps que ça. Il y avait cette sensation de...
It has the power to inspire.
Tout va être mieux, quoi. Tout est possible. C'est une économie, notamment en Afrique, quoi, fort.
It has the power to unite people in a way that little us does.
avec des opportunités, et tout le monde allait vers l'avant. C'était vraiment très encourageant, ça motivait, quoi. Il y avait tellement de choses à découvrir. Moi, je me suis lancé dans le surf là-bas. Tout de suite, et du coup, on essayait de faire des week-end trips avec une petite camionnette qu'on avait pu louer dans notre budget, et on partait avec un matelas à l'arrière. On partait tous les week-ends.
Les prémices de ce que vous vivez maintenant.
Oui, un peu, c'est marrant, parce qu'on est parti sur la Garden Route qui est incroyable, et chaque virage de la route, on a envie de s'arrêter pour prendre une photo parce qu'il y a un autre point de vue incroyable. Une route sinueuse avec une falaise à gauche, la mer à droite. On faisait des couchers de soleil sur les collines devant la mer, des couchers de soleil d'Afrique en plus. Ouais. Incroyable. Et on vivait d'or là-bas tout le temps. J'étais, je pense, un an entier dans des flip-flops et des board shorts. Et c'était juste cette vie, très très agréable, quoi. J'étais là pour faire des études, mais bon, j'ai dû faire ma thèse quand je revenais parce qu'on s'est trop amusé.
J'ai entendu dire qu'en Afrique du Sud, c'est un pays dans lequel, alors c'était il y a peut-être une dizaine d'années que j'avais entendu parler de ça, c'était un coin dans lequel en fait on venait souvent pour faire des tournages parce qu'il y a tous les types de climat presque et de, qu'on appelle ça, de relief, de géographie. Enfin, vous confirmez, vous avez vu ça, il y a des trucs qui vous ont marqué en particulier?
Oui, je dirais. Enfin, alors nous, à l'époque, on habitait au Cap et on a un peu voyagé. Enfin, moi, j'ai fait que le sud de l'Afrique du Sud et la Namibie pendant que j'étais sur place. Ben, c'est vrai qu'il y a des paysages très différents d'une région à une autre, même dans la partie sud de l'Afrique du Sud.
Oui, t'as vraiment toutes les parties d'Afrique. T'as les savanes, t'as les steppes, t'as les montagnes. On a forcément des côtes, mais des côtes un peu sauvages. Plutôt fait penser à l'Écosse.
Ah ouais.
Avec beaucoup de vent, notamment sur la Cap de Bon-Espoir, qui est très sauvage, très fonteux. Mais aussi des côtes, des plages qui sont très tropicales, quand on va vers l'intérieur, parce qu'il y a un océan Indien. Et un océan atlantique, des océans avec des températures complètement différentes, et du coup, qui forment aussi une sorte d'expérience et une sorte de côte, des places très différentes. Du désert quand on va au nord.
Beaucoup d'animaux aussi partout.
Beaucoup d'animaux, des babouins. On s'est beaucoup amusé avec eux. Et même en type de ville, parce qu'on va de ville, de la montagne, au milieu de la ville d'ailleurs, à Cape Town. On peut monter sur Table Mountain, on est tout d'un coup dans la nature pure. Mais une heure au nord, on a Stellenbosch, qui est une région de vin, qui fait très français, du coup. C'est incroyable. Très luxe et très Afrique en même temps.
Bah, oui, et puis pour moi, ça me fait aussi un peu penser à la Californie, d'un certain... En certains côtés, parce que là où on est aujourd'hui, on a une proximité avec des régions très différentes. Et c'est ce qu'on a. On a connu ça à Cape Town et on s'était toujours dit, c'est ça qu'on veut plus tard. On veut, aller faire une randonnée ou skier le matin et ensuite aller surfer ou à la plage l'après-midi, dans l'idée. Enfin.
Vous voilà donc de retour en France, enfin en Europe. Vous commencez un master en Provence, plutôt cool. Tu parlais pas français, toi, Ben, à l'époque. Tu connaissais un peu la France de par sa proximité, j'imagine, ou t'avais pas forcément eu trop l'occasion de découvrir?
Non, pas trop. En fait, le ski. Je connaissais la France par des vacances d'hiver. On faisait notre ligne droite vers les stations de ski. Et de retour, en fait, je n'avais vraiment pas fait des vacances ailleurs en France, découvert la France. Et je suis de la Belgique où on est censé être bi ou trilingue. Mais bon, je ne l'étais pas trop. Je n'étais pas très bon étudiant. Et du coup, il y a même une vraie séparation culturelle. La Flandre est associée avec les Pays-Bas. On visite beaucoup, c'est la même langue et c'est associé un peu culturellement aussi comme ça, ou comme la Wallonie avec la France. Et du coup, c'était quand même un autre pays complet pour moi. Découvrir, c'était incroyable. Hein. On a fait des coins très sympas en France. Mais oui, apprendre la langue, c'était assez rude. Notamment si ta copine est française, avait rencontré la famille et tout ça, c'est assez challenging.
Ouais, j'imagine. Vous faites votre master donc, en France. La vie vous amène ensuite, donc vous remontez un petit peu au nord, est-ce que j'ai compris, puis direction Bruxelles, c'est ça?
Oui, on avait des stages de fin d'études qu'on ne trouve pas forcément au même endroit. Et puis ensuite, Ben a une opportunité professionnelle, il se fait embaucher à Bruxelles. Et donc, logiquement, on se dit, moi, je prends mes affaires et je m'installe, s'installe à Bruxelles. Donc, on a passé 3 ans. Bon, c'était pas l'expérience la plus marquante.
Est-ce que c'est vraiment une vie très européenne, finalement, et c'est pas très dépaysant ou je me rends pas compte?
Si, c'est très européen, Bruxelles. Mais je pense que pour nous, ça nous correspondait pas à ce stade de vie. Moi, personnellement, le climat m'a été très difficile.
Ah ouais.
Le cadre de vie, enfin, c'est très urbain, un peu trop gris à mon goût. Et c'est pas la Belgique en soi, mais c'est vrai que dans un petit pays, la culture est assez différente de ce qu'on avait pu expérimenter dans le passé. Et puis, voilà, on était à un moment de notre vie où on s'est dit, on a envie de plus, on a envie de retrouver les sensations qu'on a pu avoir en Afrique du Sud. On a toujours tendu vers un cadre de vie agréable avec un climat agréable. Donc, on s'est dit, il faut partir et on va aller ailleurs.
Surtout que vous vous décriviez aussi tous les deux en introduction comme étant deux personnes aimant beaucoup la nature, l'extérieur, la outdoors. Donc j'imagine que si c'est une ville très 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 urbaine, effectivement c'est peut-être pas une vie qui vous convenait beaucoup. Est-ce que du coup vous vous êtes tout de suite dit on va partir à l'étranger puisque donc la prochaine étape c'est 2014 Boston. Comment est-ce que vous vous retrouvez de ce côté-là de l'Atlantique?
On avait le projet de partir de Bruxelles et de la Belgique
et
d'Europe parce que on s'est dit c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Mais par contre, on a toujours, on voulait pas non plus tout quitter juste à la recherche d'une idée ou d'un idéal. On avait quand même des situations professionnelles confortables. Et le premier pas, ça a été de se dire, OK, est-ce qu'on peut trouver une opportunité via un de nos boulots?
D'accord.
Et c'est arrivé assez rapidement, en fait, un peu par hasard. C'est Ben a rencontré quelqu'un via son travail, qui travaille aux États-Unis. Il se trouve qu'en plus, cet été-là, on avait prévu de voyager et de visiter la côte Est. Donc, on avait prévu de faire un road trip de 3 semaines de New York à Miami. Donc c'est une coïncidence. Pendant ce road trip, Ben a pu avoir des contacts sur place. Ça s'est très bien passé et en fait tout est allé très vite. Il a eu une proposition en étant en août. Il a eu une proposition en septembre. On a rempli tous les papiers en octobre-novembre et puis on a débarqué à Boston en fin janvier. Donc c'est allé très vite.
Saison pas du tout hostile fin janvier à Boston.
C'était le Snowzilla Winter 2014, le pire hiver de.
Ah oui, en plus 2015-2014.
C'était du lourd.
Mais oui, je me souviens, on avait une tempête de neige tous les samedis. Je me souviens, c'était horrible.
Oui.
C'était un peu.
On pensait que c'était normal. Ça, c'était pas comme ça les hivers après.
On n'a pas choisi Boston, fondamentalement. C'est vrai, on est arrivé par hasard puisque l'opportunité était à Boston. En demandant un peu autour de nous, en parlant avec des gens qui avaient eu une expérience, on a eu que des retours positifs de Boston. Donc on y est allé une semaine en octobre en repérage.
On avait Washington, Philadelphia ou Boston.
Mais c'est vrai que vous qui cherchiez peut-être de la verdure, alors je ne vais pas parler pour vous, mais c'est vrai que Boston, c'est une ville qui est relativement verte et où la nature est assez vite accessible. Est-ce que vous pouvez me raconter justement comment ça s'est passé pour vous l'arrivée en Nouvelle-Angleterre, à part la neige?
À part la neige. Oui, beaucoup, c'était beaucoup ça, la neige. L'arrivée, c'était...
C'est un peu magique.
C'était un peu, on était quand même impressionnés par les États-Unis, je pense, très vite, quoi. C'était un peu l'American Dream, et c'est quand même très différent. C'est notre continent, hein. C'est pas comme déménager de France en Belgique. Là, on voit vraiment les différences culturelles. Tout est grand.
Pourtant, Boston, c'est pas une des villes les plus grandes.
Non, mais déjà, comparé à Bruxelles, ça va. Et voilà, et après, on a que les choses, c'est très cher, on voit toutes ces différences, on doit toutes apprendre. Vraiment, Bah, très vite, parce qu'il faut quand même trouver une maison à vivre, il faut s'installer, il faut ouvrir un compte en banque. Tout est nouveau et tout est un peu plus compliqué. Mais bon, on aime bien ces expériences nouvelles, c'est ce qu'on cherche. Du coup, ça nous a plu quand même. On s'est installé, on a beaucoup aimé Boston, et notamment Boston, malgré l'hiver. Bon, l'été est très sympa, il y a des plages.
Puis l'hiver peut être sympa aussi d'ailleurs, hein, attention.
Voilà, l'hiver, ouais. On aime bien aller skier. Moi, je fais du snow et voilà, on s'est bien amusé l'hiver aussi. Hein, fait du snowmobile, du ski de fond, du ski. Mais justement, il y a des variations. Et du coup, on part à la plage ou on part au ski dans les montagnes ou dans les forêts. Beaucoup de lacs incroyables. On faisait des maisons de week-end où on passait du temps au lac. Du bateau, etc. Et pareil, c'est quand même très vite. On est à une demi-heure en dehors du ville. On est dans la nature.
Et ce sentiment de, tout de suite, de se dire, tous les week-ends, on avait l'impression d'être en vacances, enfin de rentrer de vacances. Et cette sensation de liberté, de grandeur, de possibilité. Et tout de suite, on s'est dit, ah ouais, c'est différent. On se sent moins à l'étroit. Il y a un champ de possibilités. Beaucoup plus grand.
Ouais. Vous avez été confirmé dans votre choix.
Oui, tout à fait. Ça nous a plu. C'est vrai que ça vient avec les opportunités, la variété, les choses qui sont en dehors, mais en plus, on les cherche plus parce que quelque part, on est expatrié. Du coup, c'est toujours plus en mode exploration. On va plus tenter les choses parce qu'il n'y a pas un standard, il n'y a pas une routine. Du coup, autant essayer, explorer. Mmh. Mais si on fait vite 5 heures pour un week-end, ce n'est pas grave. Donc en Europe, ça ne fait pas pour un week-end.
Et c'est vrai que ça se fait en fait beaucoup ici. Je sais que quand on parle avec la famille, peut-être qui est restée en Europe, on dit oui, je suis partie, je sais pas. Bon, moi, je suis encore à Boston, hein, donc je vais à les Adirondacks, à Lake Placid, on y va souvent. C'est 6 heures de route. Et on dit mais t'as fait ça sur le week-end? Bah oui. Et c'est vrai qu'en fait, en France, tu ferais pas un Lille-Marseille en voiture juste pour le week-end. Enfin, tu penserais même pas. Tu dirais mais pourquoi? En fait, peut-être que je sais pas si c'est effectivement comme tu dis, Ben, les distances sont particulièrement grandes et tu dis bah. Si je le fais pas, je bougerai jamais, quoi, parce que t'as envie de sortir, t'as envie de voir autre chose. Mais on a ce luxe, peut-être, en tout cas, effectivement, de redéfinir nos règles, et c'est plutôt chouette. Du coup, j'ai l'impression donc que vous avez un coup de cœur pour la vie américaine et pas que du Nord-Est. Vous êtes arrivé au bon endroit, vous vous sentez chez vous. On parle du concept d'expatriation. Parfois, ça dépend un peu des définitions, mais on parle de temporalité, en fait. Est-ce qu'on est là pour un petit bout de temps? Est-ce qu'on pense qu'on va revenir en Europe? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre état d'esprit? Est-ce que vous vous sentez chez vous?
Alors, nous, notre état d'esprit, je pense, notre singularité par rapport à d'autres personnes expatriées qu'on a pu connaître ou qu'on côtoie ici, ça a été de se dire, quand on est parti de Bruxelles, on y va, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on veut avoir une vraie expérience positive ou négative. Et on s'était mis en tête qu'on voulait rester au moins 3 ans quelque part. Et quand on est parti de Bruxelles, on est parti avec tous nos meubles. Enfin, voilà, on a tout déménagé en se disant, c'est notre vie en fait. C'est pas juste, on prend pas juste un baluchon.
On se réinstalle.
Non, on prend notre vie, on essaye de s'installer quelque part. Et si ça nous plaît pas, on se donne la possibilité de revenir. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller et de...
Pas en touriste, quoi.
Voilà, pas en touriste. On va essayer de vraiment s'acclimater et de s'intégrer. Et je dis ça parce que, surtout notamment à Boston, les personnes qu'on a pu rencontrer, à Boston, il y a beaucoup de gens qui viennent sur un visa, ça dure 3 ans, donc c'est un autre état d'esprit. Alors que nous, on est venus sur un visa très rapidement, on a eu de la chance, on a eu la carte verte au bout d'un an, et tout de suite, forcément, on s'est dit, ok, on est là, on est aux États-Unis.
Ça ouvre le champ des possibles.
Si c'est pas Boston, on peut aller ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on se voyait pas retourner en Belgique ni en France. On cherchait aussi un terrain neutre entre guillemets. Et voilà, c'était un peu notre approche en arrivant.
Et du coup, question pour l'un comme pour l'autre, est-ce que vous vous sentiez chez vous, comme on dit en anglais, were you feeling home?
Non, enfin, en fait, après moi, je pense que c'est très personnel, mais Pour, moi, ça fait 12 ans du coup que j'ai quitté la France. Je me sens jamais à la maison. Enfin, mais c'est un peu le syndrome de, de l'expatrié. C'est de d'évoluer et de se recréer un chez-soi au fur et à mesure. Et je me sens pas à la maison ici, mais je me sens pas à la maison quand je rentre en France, en Europe. Donc
moi, je me sens. Partout à la maison. Je sais pas si je me sens nulle part à la maison ou partout à la maison, mais c'est la même chose. Ouais, je crois que j'aime bien ici, en tout cas.
On est rentré en contact, en fait, à l'origine, je crois que c'est Marie, toi, qui m'avais écrit il y a quelques mois pour me parler de votre boîte. Et donc, c'est un truc qui m'intrigue énormément. Et du coup, j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 qui a fait que vous avez plaqué Boston? Sans spoiler, vous avez racheté une boîte. Et en plus, il y a d'autres projets familiaux en cours. Je vais pas
oui, c'est, on en parlait récemment avec Ben. On s'est dit que c'est vrai que le mois d'août de l'année dernière a été un vrai tournant pour nous. Parce que c'est le mois où on a décidé de déménager de Boston et de s'installer en Californie. En fait, la Californie... Nous, ça a toujours été un peu un goal ultime où quand on s'est rencontrés, même en Afrique du Sud, on se disait
d'accord.
Qu'est-ce qui ressemble le plus. C'est vrai que la Californie, c'était un peu sur notre liste. Et puis quand on est arrivé à Boston, on s'était toujours dit bon, Boston, ça sera une étape. Un jour, on arrivera en Californie.
Qu'est-ce qui vous faisait rêver à propos de la Californie?
Quoi pas. Californie. Moi, je surfe déjà. Du coup, c'est quelque part, je pense aussi, on a un peu Hollywood nous a un peu vendu aussi. Hein, Californie, je pense à beaucoup de gens. C'est l'état de vacances. C'est des villes qui sont LA, San Diego, San Francisco. Ils font tous un peu rêver. C'est tous iconiques quand même. Mais notamment, moi, je surf, du coup, c'est l'état du surf tous les jours, c'est le rêve ultime.
Le soleil pour moi.
Le soleil pour moi.
La golden hour.
C'est ça. Et la nature, parce qu'effectivement, il y a tous les parcs nationaux. Il y a beaucoup de, encore vraiment, c'est le Wild West quelque part. Il y a encore tellement d'ouverture et de nature qu'on trouvait déjà bien à Boston, multiplie fois 100 quand on est ici, parce qu'il y a vraiment des régions avec des centaines de kilomètres sans habitation. Ouais. J'étais étonné, même en sachant à quel point c'est les États-Unis, mais les États-Unis est encore sauvage, quoi, et encore vide quand on vient ici. Ça, c'est sympa.
Et en même temps, qui est une région qui est aussi développée en termes d'art, de culture, de tendance, de mode. Pour nous, il y a beaucoup de composants qui nous correspondent. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de vacances en Californie. Et on se disait, la Californie, on se sent à la maison. On se sent plus à la maison que sur la côte Est, par exemple.
Du coup, énorme coup de bol, puisque le job de Ben lui permet de transférer en Californie. Et alors, la suite, c'est quoi?
Bon, en pleine pandémie, on se dit, on voulait profiter de notre déménagement pour visiter les États à côté de la Californie.
Traverser les États-Unis, quoi.
Voilà, traverser les États-Unis.
Parti à l'ouest.
Vous êtes parti du coup en voiture avec votre maison dans le coffre.
Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, on a réussi à prendre 3 semaines pour déménager et on se dit on va vraiment faire un road trip et traverser des États dans lesquels on n'est jamais allé. On va en profiter. Donc, on a choisi certains États. Et bon, avec la pandémie, on avait envie de faire les choses de manière un peu différente. Et on se dit, on va louer un van, un camper, une voiture où on peut conduire, faire beaucoup de routes et en même temps
vivre dedans.
Ça nous évitera d'aller à l'hôtel et voilà. Et on tombe sur Internet sur Cypress Overland, qui est une société qui loue des 4x4 aménagés pour camper. Voilà, nous, le concept nous a tout de suite...
C'est très stylé, c'est beaucoup plus stylé qu'un RV.
Voilà,
c'est plus outdoors parce que c'est un 4x4 qui peut aller partout. On peut aller camper sauvage au lieu de juste des campsites. On peut explorer à cette côté liberté, nature, outdoors. Il y a tout dans
aventure
ce package.
Aventure courtois.
Mmh. Aventure. Ouais.
Et donc voilà, donc on a passé nos 3 semaines à bord de cette Jeep jaune. À voyager dans le Wyoming, le Montana, l'Oregon, le nord de la Californie. Et on a passé des super vacances. Et puis, on est arrivé un peu dans cet état d'esprit en Californie. On s'est rendu compte aussi en voyageant que c'était quelque chose, à l'ouest des États-Unis, qui se faisait beaucoup. Tout est aménagé. Les parcs nationaux, il y a des campings. Même dans les forêts, il y a un climat qui permet de le faire. Et puis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu, développé que sur la côte Est. Donc, on a tout de suite senti cet engouement.
Tout le monde dit tout de suite, et quand on arrive ici, « Ah, tu vas camper, hein, t'inquiète
voilà, !»
C'est comme ça ici. Tout le monde a un sprinter, ou effectivement quelque chose comme Overland, ou un caravane au moins.
Et voilà, et puis nous, on a adoré la Jeep. Donc en arrivant à San Francisco, on s'était même dit, ah bah tiens, si on doit racheter une voiture, on pourrait racheter une Jeep. C'est quand même sympa comme concept d'aménager une tente sur le toit. On sentait déjà un potentiel, et puis nous, avec nos backgrounds un peu aussi corporate, on a commencé à réfléchir, à se dire il y a un concept, il y a quelque chose,
il y a un truc à faire,
voilà. En arrivant à San Francisco, le jour où on devait rendre notre Jeep de location, les propriétaires de Cypress Overland à l'époque nous accueillent chez eux, et au cours d'une discussion nous expliquent que eux partent faire un tour du monde, qu'ils ont construit et aménagé leur propre véhicule, et qu'ils ont le projet de partir en Alaska et de rejoindre la Patagonie. Voilà, c'était un grand projet.
Ah, waouh!
Et donc, qu'ils allaient vendre Cypress Overland. Donc,
c'est le destin.
C'était le 6 septembre, le jour d'arrivée à San Francisco. Incroyable. Et puis, en fait, de cette petite discussion, en fait, rapidement, ça a cliqué.
Toi, tu cherchais une activité.
Oui.
On est arrivé, on a trop adoré. Et tout ce concept faisait complètement du sens.
On avait comme projet d'investir dans quelque chose. Avec Ben, on est arrivé à un moment de notre vie, on s'est dit, on a envie d'investir, que ce soit dans l'immobilier, dans une entreprise, d'entamer un nouveau projet. Mmh. Donc, ça faisait déjà, on cherchait des idées. Et puis, vraiment, là, c'est arrivé et on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être ça, en fait? Est-ce qu'on devrait pas se lancer dans une nouvelle aventure? Moi, je devais m'implanter dans mon ancienne activité en tant que coach santé, mais c'est vrai qu'on s'est dit tout de suite, ça peut être une activité supplémentaire. Et puis, on s'est dit que c'était une activité qu'on pouvait aussi partager à deux, qu'on pourrait aussi, un peu gérer. Tous les deux.
C'est ça. Et ça fait évident dans le concept et complètement pas évident dans la situation, quoi. Parce qu'on venait d'arriver, traverser le pays, arriver à San Francisco, c'était au moment des feux.
Des grands incendies.
Oui, c'est vrai.
Le pire moment des feux, c'était là où le ciel était orange à San Francisco.
Oui, je me souviens des photos incroyables.
C'est ça, on pouvait pas sortir. Il y a des Covid, forcément, en pleine force. Aussi, avec toute cette incertitude et bouleversement de notre vie, je ne sais pas comment on a arrivé à décider, mais le concept nous a
dit. Vous jouez au poker des fois? Est-ce que vous êtes dit, ok, c'est bon, on y va, quoi?
C'est ça. C'est ça, exactement.
Comment ça se passe de racheter une boîte? Parce que j'imagine que ça dépend des États.
En fait, c'est plus simple que ce qu'on pense. Après, j'imagine que tout dépend des boîtes qu'on rachète, des statuts, etc. Nous, on a racheté, donc c'était une LLC. On a juste dû s'implanter comme nouvelle LLC. Et puis, bon, il y a beaucoup d'administratifs, de papiers, etc. Les parties les plus difficiles, ça a été la négociation, la rédaction, la signature des contrats. Et puis ensuite, en ce qui nous concerne, ça a été la passation, enfin le rachat des véhicules, et du matériel qui va avec. En fait, on s'était dit, on a toujours l'image des États-Unis en disant « Ah oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, tout le monde monte sa boîte, ça doit être facile. Mm-hmm. » Et en fait, c'est pas aussi facile que ça. Et on s'est aussi rendu compte que ça coûte de l'argent. Enfin, il faut...
c'est sûr, voilà. Ça c'est clair. Tant que t'es freelance, c'est bien, mais sinon, ouais, c'est vite un énorme budget.
C'est ça. Il faut avoir un investissement, un apport.
Mais c'est marrant parce qu'en même temps, c'était ça qui était compliqué. Un investissement, c'était notre investissement. On voulait faire des prêts et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est toujours la même chose, c'est l'argent qui est compliqué. Mais de faire des prêts quand ton entreprise n'existe pas encore, vient de se créer,
c'est quasi impossible. En temps de pandémie.
En temps de Covid en plus, ouais, c'était très, très serré.
Et dans le tourisme.
Oui, ouais, exactement.
J'imagine, ce n'est pas un secteur dans lequel ils croient le plus.
Je pense que les 5 banques qu'on a passées, leur département de prêts était fermé à cause de Covid, tout simplement. Ils faisaient 0 prêt à côté de tout ça. Mais en soi, en même temps, c'est quand même vivre les États-Unis, quoi. L'administration, en soi, pour mettre en place la boîte, c'était online pendant 30 minutes et ton LLC existe.
Oui, enfin, c'est toujours bizarre de se dire, même moi, quand je m'entends dire, oui, j'ai racheté une boîte, ça paraît impressionnant. Et puis, au final, ça s'est fait. On l'a fait en moins de 3 mois et on est devenu opérationnel début décembre.
Ah ouais. Et question bête, tu vois, mais genre, puisque en fait, vous avez tout de suite accroché au concept parce qu'en fait, vous avez été vos propres clients 3 semaines avant. La décision semble donc du coup avoir été prise très rapidement. Est-ce que vous avez quand même, je sais pas, genre épluché les résultats de la boîte, des choses comme ça, ou est-ce que vous avez dit, bah non, en fait, nous, on pense qu'on est capable de faire tourner le truc, finalement, peu importe la santé actuelle de la boîte. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé.
On a mis 3 mois, en fait, on a commencé à se pencher dessus début septembre, on a fait le rachat début décembre, donc voilà, on a passé 3 mois vraiment dans l'étude de marché, à tout regarder, à se poser à se poser des questions, à faire des simulations, à aller voir les banques, les garages, etc.
Donc, et renégocier par rapport à ce qu'on trouve.
Voilà, la négo, etc. Donc, je ne sais pas si c'est court ou si c'est long. Je pense qu'on a tout de suite, on a été convaincus du concept et du potentiel. Et on s'est dit, on n'en démord pas et on pense vraiment qu'il y a... C'est un marché qui cartonne, voilà, qui explose. Il y a une place à prendre sur le marché, donc ça c'est sûr.
Faire ça déjà, même si vous l'aviez fait en France ou en Belgique, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, on rachète pas des boîtes tous les jours, mais en plus dans un autre pays, dans un autre état que celui que vous connaissiez un petit peu quand même, puisque vous y avez fait 3 ans dans le Massachusetts. Je sais pas, est-ce que vous avez eu un petit coup de main ou vous avez vraiment géré tout ça tout seul?
On a tout fait tout seul.
Mais ce qui facilite les choses, c'est parce qu'on a regardé. Bon, idéalement, on aurait eu un avocat. Mais le coût de l'avocat, ça aurait été probablement la moitié du coût de l'achat de l'entreprise. Parce que c'est une petite entreprise familiale. Et c'est ça aussi qui a finalement facilité le fait de le faire comme ça en direct. Parce que c'était une couple qui avait créé ça il y a 1 an et demi comme entreprise familiale. Mm-hmm. Nous, on est un couple qui reprend les choses. Tu vois, c'est toute petite échelle quand on a écrit des contrats nous-mêmes, mais comme l'un ni l'autre a un avocat ou des connaissances profondes là-dedans, expérience avec, ça passe, quoi.
Oui, après, on s'est appuyé sur notre entourage, les connaissances que nous, on avait dans certains les domaines financiers, légaux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a pu réussir à faire tout nous-mêmes.
Trop chouette. Bravo. Moi, j'adore ce que vous faites. Je vous l'ai déjà dit. J'adorerais, qu'il y ait ça dans le Nord-Est, parce qu'on campe ici aussi, ok? Que les choses soient bien claires. Et puis, 2, que vous m'appreniez à faire ça sur ma Jeep. Après,
c'est
pas pour vous faire concurrence, pour chez moi.
Mais c'est la moitié du plaisir. Hein. C'est la construction du véhicule, la recherche de... Parce qu'on vient de faire une troisième, nous, un Gladiator, parce qu'on avait la Wrangler jaune, le Toyota Tacoma bleu, et maintenant on a acheté le Jeep Gladiator, ce qui est le pick-up, ça ressemble à un Wrangler.
Oui, je l'ai vu sur le titre.
Rouge, du coup, on reste dans les couleurs vives. Et on en a plein dans la construction là. Il y a beaucoup de choses à explorer parce qu'il y a. Ouais, bon, je vais pas dire le technique, mais en dehors du fit des composants ensemble, le poids, le suspension de la voiture qui impacte.
Ça change les permis, j'imagine aussi l'utilisation des véhicules.
L'assurance ou... est encore une challenge qu'on a parce que ça tombe dans aucune des catégories standards. C'est pas un RV, c'est pas une voiture, c'est pas un bus, c'est pas.
Ah ouais.
C'est pas vraiment un classement qui existe. Mmh. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous occupent et nous amusent là-dedans, mais je vais jamais me plaindre de faire ce genre d'activité parce que je m'amuse avec Digip pour aller explorer en week-end de marketing pour faire des photos dans la forêt, dans le désert.
Ce que j'allais dire, du coup, vous testez vos propres voitures, vous partez en balade régulièrement.
Oui, c'est dans l'idée, c'est ce que
quand on a
racheté Cypress, on s'était aussi dit bon bah voilà, on arrive en Californie à la recherche d'un certain lifestyle, ouais, et on veut avoir une activité professionnelle dans l'idée, dans un idéal qui nous ressemble. On a toujours voulu avoir ça. Et on s'est dit, avec Cypress Overland, ça va nous offrir cette vie-là. Ouais. C'est-à-dire que...
Les moyens de le faire.
Et puis, ça va nous... Voilà, ça ne sera pas du travail, parce que pour nous, déjà, de manière générale, même si on vit en ville, la semaine, le week-end, on est toujours ailleurs. On prend la voiture, on va à la plage, à la montagne, au lac. Donc, on s'était dit, ça sera notre vie. Et puis, pour la petite histoire, en fait, moi, je suis tombée enceinte au mois de septembre. Donc, on a dû un peu revoir nos plans.
Félicitations.
Merci.
Aussi
au même moment, en se disant, bon, l'exploration 4x4 off-road, il va peut-être falloir mettre un petit frein cette année. Donc, on explore, mais c'est vrai que un peu différemment. Et
vous
puis,
êtes sage.
On essaie de faire un peu attention.
Mais j'ai vu quand même sur les plans, du coup, quand vous montrez qui peut utiliser les véhicules, en fait, qu'il y a quand même une petite silhouette à côté des parents. Donc, on peut quand même faire dormir un enfant sur le toit de sa Jeep.
Ah oui, bien sûr. On a beaucoup de familles qui viennent. Enfin, les deux voitures qu'on avait jusqu'à maintenant, elles sont faites pour accueillir deux adultes et un enfant. Donc, c'est tout à fait faisable. Et là, la dernière voiture qu'on a construite, c'est la version familiale. Donc, pour avoir deux adultes et deux enfants. Et puis, c'est vrai qu'ici, c'est quand même une activité qui est très développée et très familiale en soi, le camping et l'exploration. Ça s'y prête totalement.
Pour les enfants, j'ai trop hâte que notre premier est assez grand pour faire ça. Parce que oui, pareil, c'est une activité avec la famille où on va vraiment dans la nature, ce qui, je pense, est très sain pour des enfants, d'expérimenter ça dans la nature avec des animaux et se débrouiller. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion de téléphone.
Ça fait trop trop rêver. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc que vous avez appris sur cette expérience en fait de rachat, de vous lancer là? Ça va presque faire un an, on est à quoi, ça va faire 9 mois en fait, ce fameux road trip. Je sais pas, est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner à des auditeurs qui se posent la question peut-être de changer les plans, de faire un virage à 180 et peut-être de suivre ce qu'ils aiment?
Moi, ce que je dirais, mon expérience personnelle, enfin de par ma personnalité, c'est de se dire de pas se mettre de barrières en fait. Je trouve que moi, en tant que Française, on a un cadre scolaire, universitaire qui est assez rigide et on nous apprend souvent tu étudies tel sujet, tu vas ensuite prétendre à tel type de poste et puis voilà.
Très protocolaire.
En arrivant aux États-Unis, j'ai trouvé que la culture était très différente et on est encouragé à utiliser ses talents, sa personnalité pour ensuite construire son propre chemin professionnel. Et moi, j'adore cette approche-là. Et puis, encore plus en Californie, tout le monde a un projet, tout le monde essaye d'être entrepreneur, de faire des choses. Les gens n'ont pas peur, se lancent beaucoup plus, alors qu'on a, nous, peut-être une tendance... on a des barrières, on a peur, on se sent pas légitime. On n'a pas forcément besoin d'avoir une expérience dans ce domaine-là. Je pense qu'une envie très forte, une conviction, la motivation peut permettre de se lancer dans des projets. Et puis il faut
juste le faire.
Il faut le faire.
À moi, à l'autre, ouais, c'est faut juste des idées, parce que la décision de le faire a été faite très vite. Et il n'y avait rien qui était clair. On s'est posé des questions, mais on aurait pu poser des millions de questions et encore être en train de se poser des questions. Et il y a toujours beaucoup de questions. Ça n'arrête jamais. Du coup, il faut juste lancer un moment ou l'autre, décider de faire quelque chose et après se débrouiller pour chaque problème quand il vient et passer chaque étape, quoi.
Avant qu'on appuie sur enregistrer pour cet épisode, Ben, tu recevais des messages de ton travail. Donc, vous êtes entrepreneur, mais ce n'est pas votre seule activité professionnelle. Marie, toi, tu es à 100% sur Cypress.
Oui.
Et toi, Ben, tu as un job à côté, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Le job qui t'a amené en Californie.
Oui, c'est ça. C'est extrêmement stable en comparé à tout le parcours qu'on a décrit de Marie, parce que j'ai travaillé depuis les études, en fait, dans une même entreprise, finalement, en conseil, en outsourcing, en technologie, Altron, maintenant Capgemini, vient d'être acheté. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de différents postes, beaucoup de différents pays. Je n'ai pas l'impression que ça fait 10 ans, mais ça fait 10 ans.
Donc en fait, Cypress, c'était ton petit grain de folie, quoi. T'avais besoin. C'est ça.
Oui, c'est ça. Et c'est quand même, c'est quand même aussi important parce que c'est une sorte de stabilité qui est là, qui permet de survivre pendant qu'on essaie de vivre.
Oui.
Qui nous a permis quand même aussi de beaucoup. Ah, je suis très, comment dire,
reconnaissante
pour le travail qui nous a amené quand même dans tous ces endroits-là.
Oui, on a pu se lancer là-dedans aussi parce que on avait
des revenus stables à côté, quoi.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous avez une idée de à quoi ressemblerait votre quotidien ? Alors, généralement, ma question typique, c'est à quoi ressemblerait votre vie si vous n'étiez pas parti la première fois ? Mais en fait, on ne se parlerait même pas si vous n'étiez pas parti la première fois parce que vous ne vous seriez pas rencontrés. Est-ce que... alors, peut-être que du coup, on peut changer un peu la question. Si vous étiez resté, je ne sais pas, en France ou en Belgique et que vous n'aviez pas quitté l'Europe une seconde fois, est-ce que vous avez une idée d'à quoi ressembleraient vos vies?
Je pense que oui, c'est quelque part complètement impossible. Je m'ennuierais, je crois. On a besoin de changement. On serait dans une situation assez similaire si on était resté, parce que tous ces changements... Il amène l'un à l'autre aussi. C'est par faire quelque chose qu'on ouvre un esprit, qu'on change de personnalité, de point de vue, qui ouvre un autre chemin et qui donne encore plus de volonté, d'ouverture, de prise de risque pour faire plus. C'est un peu l'inverse, quoi. Tu vois, c'est plus qu'on reste dans un endroit, ça amène à moins d'opportunités, moins d'exploration et tout ça.
Oui,
comme on disait, c'est que si on va dans un autre pays comme expatrié, on est tellement plus ouvert à des options que même comparé à les gens qui ont vécu là pendant 20 ans, on fait plus de choses. Je pense qu'on serait un peu malheureux.
Oui, on aurait, je pense, eu des parcours aussi un peu peut-être atypiques dans nos pays respectifs. Je pense qu'on a une personnalité aujourd'hui qu'on exploite, mais qu'on a toujours eue, et on aurait été à la recherche d'avoir un environnement multiculturel ou d'expériences professionnelles, expériences sociales, expériences de vie un peu différentes.
C'est
dur à imaginer.
Écoutez, merci beaucoup pour ce petit moment passé avec vous. Une question traditionnelle que je pose à la fin de chaque épisode. Si vous pouviez nous faire découvrir, alors ça peut être vos États-Unis, ça peut être votre Californie ou votre Grand Ouest à vous, en quelques lieux, en quelques odeurs, quelques plats à goûter, ce serait quoi ? Je ne sais pas si vous aviez, je sais pas, cinq choses comme ça à nous suggérer si on veut découvrir, j'en sais rien, la Californie de Marie et Ben.
C'est les plages, forcément les plages de Californie. Peut-être écouter Santa Barbara, forcément l'expérience, le surf.
Santa Cruz,
c'est obligatoire quand on passe par ici. Et après, je ferai au moins une Death Valley ou une des parcs vraiment en solitude, quoi, en exploration.
Oui, je pense que pour Ben, oui, la Californie, c'est ça. Mais d'une manière générale, les États-Unis, pour nous, c'est les grands espaces. C'est ce sentiment de liberté qu'on a toujours ressenti, le sentiment de possibilité et puis une attitude positive. avec beaucoup de mixité d'une manière générale.
Tout ça en 4x4 camping.
C'est quoi votre plat préféré en Californie? Est-ce qu'il y a un plat typique?
Ah, c'est marrant en fait. On explore en fait qui me frappe ici, Californie, San Francisco, c'est juste
n'importe quel plat typique de n'importe quel continent est très bon ici. C'est tellement international.
C'est une grande diversité.
Quand on mange la diversité, quand on mange, etc. C'est vraiment ça quoi. On mange tout le temps différent, quoi. On n'a pas un accroche comme ça.
Oui, je pense que ce qu'on aime, c'est d'avoir de la diversité, tandis qu'en Belgique ou en France, on est très centré sur la spécialité française ou belge. Ici, c'est des spécialités du monde entier. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on apprécie.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Marie et Ben pour leur partage, leur générosité et leur enthousiasme. Je vous l'annonçais en introduction, je trouve leur passion hyper contagieuse. Moi perso, j'attends qu'une chose, c'est que la deuxième succursale de Cypress Overland ouvre à Boston pour que je puisse en profiter en attendant mon prochain voyage en Californie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets tous les liens vers l'entreprise dans les notes de l'épisode. Et puis sinon, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on est sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous pouvez retrouver la vignette de l'épisode et venir discuter directement avec nous, avec les invités et avec le reste de la communauté de ce que vous avez pensé de ce récit d'aventure et de voyage. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. J'ai hâte de vous retrouver lundi pour une nouvelle histoire.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.